Bonsoir à toutes et tous. Si vous le voulez bien, on va commencer cette table ronde ou cette conférence, je ne sais pas, qui porte le titre « Jacques Ellul, du bluff technologique à l'intelligence artificielle ». Et donc, Antoine, rentre vite, on a commencé. Il faut sortir une feuille de papier, mettre son nom à gauche, en haut.
T'auras 5 minutes.
Non, en fait, vous aurez 3 heures. Donc, Jacques Ellul du bluff technologique à l'intelligence artificielle. Et donc, je vais peut-être vous indiquer pourquoi on a proposé d'organiser cette table ronde. Mais peut-être en préalable... la question avec Catherine et Cédric qu'on se disait, c'était peut-être de vous demander qui dans la salle connaît Jacques Ellul. On a déjà entendu parler de Jacques Ellul. Donc il y en a quand même, c'est assez majoritaire. Cédric me souffle une deuxième question. À mon avis, il y aura moins de mains levées. Qui l'a connu personnellement? Qui a son 06? Alors, pour ceux qui n'ont pas levé la main à la première question, donc vous êtes a priori plutôt des personnes qui se sont dit qu'il y avait quelque chose à découvrir autour de la personne de Jacques Ellul. Et donc on va essayer effectivement de vous éclairer sur qui était Jacques Ellul et puis comment aujourd'hui sa pensée, ses écrits, son œuvre peuvent être utiles pour comprendre les évolutions de notre société. Jacques Ellul donc était né en 1912 et il est mort en 1994. Et donc l'année dernière, en 2024, c'était le 30e anniversaire de sa mort. Et donc ça avait été l'occasion de commémorer, hein, comme ça se fait bien, quand on a envie de faire perdurer finalement une œuvre, une pensée, de profiter effectivement d'un anniversaire un peu symbolique pour pouvoir revenir sur la pensée, sur l'œuvre de quelqu'un qu'on considère comme quelqu'un d'important. C'était le cas donc l'année dernière, en 2024, pour le 30e anniversaire. Et donc avec Catherine, avec Cédric, avec d'autres, on avait organisé une petite soirée dont j'étais à l'initiative avec ma double casquette, à la fois d'administrateur d'Alternatives économiques, et puis deux membres du conseil de surveillance de la Fondation pour l'écologie politique. Et donc je suis très fier de pouvoir animer ce temps ce soir avec vous, parce que Catherine Larère, donc, qui est philosophe, qui a été professeure de philosophie à l'Université de Paris 1, a été la présidente de la Fondation pour l'écologie politique. Et Cédric Villani, qui est mathématicien, médaillé Fields, comme vous le savez, est aujourd'hui le président de la Fondation pour l'écologie politique. Voilà. Et donc, ça fait sens, d'avoir l'ancienne présidente et l'actuel président pour pouvoir parler de la pensée de Jacques Ellul. Alors, si on veut être un petit peu participatif, c'est pas simplement, pour faire tendance, hein. C'est que c'est assez congruent avec la personnalité de Jacques Ellul. Jacques Ellul habitait près de Bordeaux, où il a enseigné à l'Université de Bordeaux et à Sciences Po Bordeaux. Il était historien du droit, sociologue, philosophe, théologien également. Et il avait une maison pas très loin de Bordeaux, à Pessac. Et il avait l'habitude de réunir plein de gens autour de lui pour parler, pour discuter. Et donc, peut-être que, justement, un peu dans l'esprit de Jacques Ellul, pour le faire revivre, on pourrait prendre quelques minutes pour ceux qui connaissent la pensée de Jacques Ellul. Est-ce que vous avez envie de dire quelque chose que vous savez de Jacques Ellul? Qu'est-ce que... Si, voilà. qu'est-ce que pour vous il incarne justement, et qu'est-ce qui reste aujourd'hui dans la pensée de Jacques Ellul. Alors, il y a déjà un monsieur qui a levé la main, dont je ne connais pas le prénom, mais qui va se présenter, et il va nous dire en une phrase, pour lui, Jacques Ellul, c'est qui, ou la pensée de Jacques Ellul, c'est quoi. Alors, vous avez même pas, il n'y a pas de micro. Est-ce que c'est possible d'avoir un micro pour que ça fonctionne bien? Par exemple, vous parlez fort. Allez.
Un des premiers qui s'est attaché à décrire ce qu'il appelle le système technicien.
Oui, bah c'est un problème du système des techniciens, c'est que des fois voilà. Ça marche pas.
Jacques Ellul d'ailleurs explicitement grogne contre le micro dans un de ses bouquins, voilà. En disant que c'est une mauvaise invention.
Voilà.
1-2-1-2. Ah voilà, c'est bon, le système technicien fonctionne. Oui, donc Jacques Ellul, c'est un penseur assez iconoclaste d'ailleurs, puisque c'est difficile de le mettre dans une case, et qui s'est attaché à décrire le système ce qu'il appelle le système technicien. Je ne vais pas me lancer dans une tentative de définition, puisque toute sa vie, il a cherché à faire comprendre la complexité et les différents revers que ce système technicien avait. Je pense que cette pensée systémique qu'il a essayé de mettre en place est extrêmement précieuse pour réfléchir à l'IA. Donc, je suis curieux. Et le bluff technologique, c'est une de ses œuvres qui d'ailleurs est peut-être la plus accessible. Enfin, moi, j'ai découvert Jacques Ellul par le bluff technologique.
Très bien.
Voilà. Je m'arrête là.
Ouais. Merci. Donc, il y a eu deux idées dans votre intervention. Un penseur iconoclaste, vous avez commencé comme ça, et puis un penseur de la technique. Hein. On va résumer comme ça. Qui c'est qui veut prendre la parole? Oui, monsieur.
Moi, je serai bref. Je suis Eric, un militant écolo.
Très
voilà.
Bien. Continuez.
En plus, pas moi. Juste bref, je vais exprimer peut-être ceux qui connaissent Ellul en tant que fond de sauce, sans prétention à une connaissance particulière des lectures anciennes, plus lointaines. Et je retiens aujourd'hui cette phrase qui m'est revenue récemment dans une lecture qui disait en 1954 « Ce que la technologie gagne, la démocratie le perd ». Voilà, okay. J'en resterai là, mais j'espère que vous pourrez compléter, enrichir ou nuancer cette affirmation.
Alors, c'est bien 1954, donc vous faites référence à le livre qu'il a fait connaître, en fait, qui s'appelle « La technique, l'enjeu du siècle ». Et effectivement, 54, finalement, tout à l'heure, je parlais de commémoration par rapport à son décès en 94, c'est les 70 ans de la parution de ce livre majeur. Merci. Une autre intervention, peut-être, sur Jacques Ellul? Monsieur? Il faudrait peut-être lui... Ah pardon, madame, excusez-moi, je vais donner la parole à une dame d'abord.
En fait, il m'a donné le micro. Non, je pensais à ce qu'il avait fait sur la propagande.
Très bien. Très bonne remarque, très bon sujet également. Monsieur
Jacques Ellul, il fait partie un peu de gens comme Yvon Illich, qui ont une critique de la société technologique. Et donc lui, de ce que je me souviens, dans son bouquin « Le bluff technologique », c'est qu'il fallait se méfier de ne pas se faire avaler par la technique. L'homme, l'être humain doit toujours être à la hauteur de l'affaire, mais surtout pas... Donc je trouve que l'histoire de relier ça avec l'intelligence artificielle, je trouve que c'est évidemment dans la lignée des choses.
Hein. Très bien. Donc vous êtes la deuxième personne qui cite le bluff technologique, puisque monsieur tout à l'heure l'avait fait, un livre qui est paru en 1988.
Il est l'auteur de la révolution, l'autopsie de la révolution, 71. Autopsie de la révolution. C'est publié au Seuil. L'autopsie des révolutions.
De la révolution, peut-être.
Des révolutions.
Il a écrit 70 livres à peu près, donc du coup, effectivement... Alors attendez, il y a encore peut-être deux interventions, monsieur.
Je reviens après.
Ah non, du coup, il y a trop de participation, là, ça devient...
Oui, c'est
Bruno avant... Villalba.
Oui, c'est le compagnonnage avec Bernard Charbonneau, et sa fidélité en amitié, et sa fidélité dans la réflexion. Puis, deuxième petite chose, mais plus anecdotique,
oui.
C'est le penseur qui a influencé Una Bomber.
Ah oui, voilà. Tout à fait. Alors, on reviendra sur Bernard Charbonneau, évidemment, tout à l'heure dans l'intervention de Catherine. Monsieur, vous finalement, vous renoncez à prendre la parole, c'est ça? Non, on vous retire la parole, carrément. Ah, d'accord, ok.
Monsieur. Non, moi, je n'ai pas de
J'oserais pas citer. Par contre, ce qui est sûr, c'est que c'est un nom qui revient beaucoup dans le mouvement low-tech, qui est tout à fait moderne, comme l'un des référents de la pensée technocritique et du chemin difficile qu'il y a pour remettre une place différente de la technique dans nos sociétés.
Merci beaucoup. Un mot important, adjectif important, technocritique, vous avez dit, vous n'avez pas dit technophobe. Hein, c'est important, ça. Peut-être une dernière intervention. Monsieur,
je crois qu'en 1962, je ne connais pas la citation exacte, mais il a dit que l'abondance d'informations et la surabondance d'informations nous priverait peu à peu de nos capacités à avoir des idées claires sur quelque sujet que ce soit.
Très bien. On s'en tient là. Il y a encore un monsieur, oui. Manuel,
ouais, Modinier. Moi, j'ai découvert Ellul par un bouquin de Jean-Luc Porquet, qui a écrit un bouquin qui s'appelait Jacques Ellul, l'homme qui avait presque toujours raison. Mais c'est le seul truc que je voulais dire. Porquet, maintenant, il est journaliste au Canard. Enfin, je ne sais pas s'il l'est encore, mais il traite beaucoup les sujets écolos.
Tout à fait.
Mais c'est le côté chrétien anarchiste.
Tout à fait.
Ça n'avait pas été cité.
Merci, Manuel. Effectivement, Jean-Luc Porquet, on y reviendra dans l'intervention de Cédric, mais c'est important d'avoir cité effectivement cet ouvrage qui est important, qui est une belle restitution.
Le titre exact, c'est « L'homme qui avait presque tout prévu ».
Voilà. Et donc, Cédric, dans son intervention, insistera beaucoup sur le « presque ». Alors, il y a encore une demande de parole ou pas ? Non ? C'est bon ? Bon, écoutez, on va commencer. Du coup, en fait, vous savez déjà beaucoup de choses sur Jacques Ellul, mais les choses que vous avez restituées comme ça de mémoire montrent à quel point c'est un penseur qui est quand même utile pour comprendre les évolutions de notre société. Alors tout à l'heure, je parlais de l'acte un petit peu commémoratif qu'on avait organisé en mai 2024. Et donc, ça s'est traduit dans un... Alors, je ne dis pas un livre, parce que l'éditeur, qui est Labor et Fides, m'a dit qu'il s'agissait d'un MOOC, c'est-à-dire quelque chose qui est intermédiaire entre la revue et le livre, entre le magazine et le book. Et c'est pour ça qu'on appelle ça un MOOC.
Avec un K, avec un C.
Avec un... Voilà. Compris, voilà, c'est ça.
Oui, il y a deux MOOC. Il y a les MOOC, M-O-O-C, qui désignent les cours en ligne ouverts à tous, avec l'acronyme anglo-saxon, et les MOOC avec un K, qui est construit sur book.
Voilà. Vous apprenez déjà beaucoup de choses, hein, alors que le truc...
On commence très fort.
Voilà, et donc ce MOOC restitue les interventions. Alors, sont intervenues dans cette petite séance commémorative Margot Cassan, qui est donc une philosophe, une jeune philosophe. Patrick Chastenet, qui est un spécialiste, il a écrit un repère à la découverte sur la pensée de Jacques Ellul. Pierre Urmic, qui est aujourd'hui le maire de Bordeaux et qui est un ancien élève de Jacques Ellul. Catherine Larère, que je ne représente pas. Noël Mamère, qui a fait la préface et qui est lui aussi un ancien élève de Jacques Ellul. Adrien Talan, qui est un jeune doctorant en philosophie de la technique, et puis Cédric Villani, que je ne vais pas à nouveau présenter. Et donc, alors je crois qu'il n'est pas à la librairie là, et on m'a expliqué, et donc c'est un petit peu dommage, mais je crois que vous pouvez quand même faire passer la commande si ça vous intéresse. C'est pour 19 euros, bon, c'est quasiment donné. Et en fait, c'est parce que ce MOOC est sorti le 17 septembre. Et en fait, la liste des publications qui sont disponibles à la librairie était déjà arrêtée bien avant. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai des... Donc, on va passer aux interventions. Qu'est-ce que je peux dire quand même en complément de ce que vous avez dit sur Jacques Ellul, donc né en 1912, mort en 94, donc sur ses disciplines, sur son enseignement. C'est quelqu'un qui a été résistant pendant la guerre, donc je pense que c'est quand même un élément important de sa biographie. C'est quelqu'un également qui a été, en 1944, il a été au conseil municipal de la ville de Bordeaux. Peut-être qu'on y reviendra dans la discussion. Voilà, Jacques, Catherine en parlera parce que c'est, il a eu un rapport à la politique qui était un peu tourmenté. Enfin, tourmenté. Non, il a eu pris ensuite des positions assez assez claires, mais c'est intéressant de savoir qu'il a été quand même, il s'est investi dans la politique. Écoutez, le mieux peut-être c'est passer la parole à. Alors, j'ai proposé de donner la parole d'abord à Catherine. Parce que, en fait, un peu comme l'a suggéré Bruno tout à l'heure, évidemment, Jacques Ellul est un, on peut l'inscrire comme un des pionniers de l'écologie politique en France. Et donc, Catherine va développer son argumentaire pour justement justifier le fait qu'on peut le considérer comme un des pionniers de l'écologie politique. Et puis ensuite, on enchaînera tout de suite avec une intervention donc de Cédric, justement, sur comment, à travers l'œuvre de Jacques Ellul et sa pensée sur la technique, on peut réfléchir à l'intelligence artificielle. Catherine, je te donne la parole pour une dizaine de minutes.
Oui, merci Christophe. Vous m'entendez ? Ok, parce que moi, je n'ai pas l'impression que ça... Bon, bref, si ça marche, c'est bien. Donc, effectivement, alors, merci à Bruno d'avoir... fait le rapport à Bernard Charbonneau parce que bon, ça me paraît très important et je vais essayer. Donc je vais repartir d'un certain nombre de données de sa biographie pour essayer de dire son originalité, son importance. Et donc je laisserai à Cédric la discussion vraiment sur la dimension sur l'étude de la technique. Hein. Donc oui, il naît à Bordeaux, où alors il a ça de remarquable, bon, que il est pas bordelais, il va rester bordelais toute sa vie, mais en fait il a des origines familiales très 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 diverses et très lointaines. Et je dis ça parce que ça montre, il va être très attaché au Bordelais, à la région girondine, à la Gascogne, appelez ça comme vous voulez, très, très attaché. Enfin, c'est vraiment, et ça montre qu'on n'a pas besoin d'être né natif de quelque part pour s'attacher à une région et vraiment faire quelque chose. Et donc... Bon, il fait ses études à Bordeaux, et c'est là, c'est au lycée, qu'il va rencontrer Bernard Charbonneau, qui lui aussi, alors lui, il est plus de la campagne, et lui, il est plus de la ville, hein, et lui, il raconte qu'il a passé sa jeunesse à jouer sur les docks le long de la Garonne, et c'est là qu'ils vont se connaître, et je trouve que c'est la pour moi, c'est ça qui m'a frappé quand Christophe m'a demandé d'intervenir. C'est très rare. Alors, leur amitié va durer toute leur vie. Ils vont être très liés et en même temps d'une grande sincérité. Ils vont pas avoir peur de se critiquer l'un l'autre. Donc, c'est déjà rare. Hein, du coup, je les avais comparés à Montaigne et à la Boétie, mais encore, la Boétie a vécu très, très peu. Hein, donc, Montaigne n'a pas eu beaucoup le temps enfin, à parler de lui et l'a rendu célèbre. Mais Ellul et Charbonneau, ils étaient nés tous les deux 1910 ou 1912, et ils sont morts l'un en 94 et l'autre en 92 ou 96, je ne sais plus exactement. Et toute leur vie, ils ont été... amis, et ils ont partagé le travail qu'ils faisaient. Et donc, il y a comme une injustice dans le fait que Ellul est beaucoup plus connu que Charbonneau. Alors que je vais essayer de vous montrer à quel point ils sont liés dans leurs idées, dans leurs pensées, et à quel point c'est important. Donc, ils vont continuer, et c'est là qu'ils viendront vraiment amis à l'université. Ellul fait des études de droit, il finira par être prof de droit, par avoir une agrégation, etc. Et Bernard Charbonneau fait des études d'histoire, et il passera la grecque d'histoire, je crois. Et ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est qu'à la sortie ou pendant leurs études, hein, et à la sortie de leurs études, Ils sont donc dans la France, dans l'Europe, dans le monde. Hein, c'est en 32, 33, ils ont 20 ans. À ce moment-là, le monde est partagé entre droit, en tout cas au moins l'Occident, est partagé entre trois courants qui est bon le capitalisme et la démocratie parlementaire qui accompagne le capitalisme, donc des possibilités de réforme, c'est ça que je veux dire. Deuxièmement, depuis 1917, il y a le socialisme qui essaie de se construire en Russie, devenue Union soviétique, et puis il y a la montée du fascisme. Et il faut comprendre que dans les années 30, il y a des gens qui peuvent être attirés par le fascisme. Ça nous paraît incompréhensible maintenant, mais de fait, et c'était pas... Non, mais je veux dire, quand je vais vous dire, vous connaissez Ellul, et que je vous dise qu'il n'a pas été attiré par le fascisme, vous pourriez dire, bah bien sûr que non. Ben, c'est pas si évident, c'est ça que je voulais dire. Et eux, ils vont se reconnaître dans aucune de ces tendances, aucune ne leur convient, et ils vont se... lancer. Alors c'est le moment où il y a un certain nombre de non-conformistes qui se lancent. Il y a l'aventure de la revue Esprit, et puis d'une revue qui n'a rien à voir, qui s'appelle Ordre Nouveau, mais qui n'a rien à voir avec ce que le groupuscule d'extrême droite d'après la Deuxième Guerre mondiale. Et c'est pourquoi ils vont faire partie d'un courant qu'on va appeler non-conformiste. Et comme eux, ils sont très... Gascons, Bordelais, Girondins, on les appellera les non-conformistes Gascons. Alors, c'est quoi l'originalité? Ils se disent révolutionnaires. Hein, on a publié une anthologie d'écrits, alors, surtout de Charbonneau, parce qu'il a été beaucoup moins publié qu'Ellul, qui dit « Nous sommes des révolutionnaires ». Non, le titre est « Nous sommes des révolutionnaires malgré nous ». Ils veulent changer le système. Ils veulent changer la société telle qu'elle est, mais ce qui fait qu'ils vont se trouver avec Esprit, c'est-à-dire avec le courant qu'on a dit personnaliste, c'est qu'ils pensent qu'il ne faut pas s'occuper des individus abstraits, mais de la personne concrète. Hein. Et donc, une de leurs idées, ça sera que on ne change pas le monde si on ne change pas soi-même. Et donc ce double changement qu'on retrouve après chez et en particulier chez un certain nombre d'écologistes, déjà ça les marque. Et donc ils vont organiser, tu disais Christophe que Ellul réunissait des gens chez lui, mais ils ont toujours fait ça. Hein. Ils organisent des petits groupes, ils les réunissent à la campagne, et ils pensent que, parce que, alors, ce que Charbonneau va d'abord immédiatement apporter à l'amitié d'Ellul qu'il a avec Jacques Ellul, c'est que lui, c'est un homme qui, un ado et puis un adulte, qui aime la nature, il a été scout, ça lui a fait découvrir beaucoup d'endroits en France, sac à dos, etc. Et il va entraîner Jacques Ellul dans cet amour de appelons ça la nature. Je dis ça parce que maintenant ça c'est presque difficile de parler de la nature, mais à leur époque ça ne l'est pas. Et donc dans ces groupes qu'ils organisent, dans la réflexion qu'ils lancent sur qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut se transformer, un des premiers textes il va être publié par Bernard Charbonneau dans une revue locale des groupes, ils font des groupes esprit dans le Bordelais, ça va être le sentiment de la nature. Et donc, ça commence par là. Hein. Et bon, alors, ils vont continuer. Puis la guerre arrive. Et comme tu disais, Christophe, ils sont tous les deux résistants. Alors, ils participent pas à la lutte armée. Hein. Mais j'ajoute aussi, je veux pas prendre trop mon temps, mais c'est important parce que Ellul va, il est en train de passer la grecque de droit, il va être nommé maître de conf à la fac de droit de Strasbourg. quand les Allemands envahissent la France, la faculté de Strasbourg est déplacée à Clermont-Ferrand, où Ellul arrive et où il va se faire révoquer parce que il a dit du mal des Allemands à ses étudiants. Il y a quelqu'un qui est allé le raconter. Donc il va être dans une situation un peu difficile à Bordeaux où il va vivre. Entre-temps, il s'est marié et ils vont vivre. Ils ont un enfant et ils vont vivre. Bah, un petit peu de ce qu'ils font pousser dans la région bordelaise. Et ils sont sur la ligne de séparation entre la zone occupée et la zone non occupée. Et ils vont aider des gens à passer, ils vont aider des juifs, ils vont cacher des juifs. Et si bien qu'effectivement, en 1944, Ellul va se trouver faire partie des conseils de résistance et des tribunaux qu'on met en place. Et il va avoir quelque chose qui le représente bien. Il va refuser, il va dire « je ne traiterai pas les collaborateurs les comme ils ont traité les résistants et ils l'ont traité lui. » Bon, et donc il va se faire remarquer par le refus finalement de se venger. C'est là aussi qu'il va rentrer à la mairie avec l'idée que ça y est, il allait changer les choses comme ils avaient essayé de le faire pendant le temps où ils étaient dans leur groupe d'esprit dans la région bordelaise. Et puis il se rend compte, et c'est là aussi une expérience qui va reporter sur ce qu'il va dire de la technique, il se rend compte qu'il se heurte à une administration, qu'en fait c'est l'administration qui fait tout, et que lui, il n'a pas grande possibilité d'action. Hein. Et donc à partir de là, il aura, on peut dire, une attitude politique qui sera entre l'anarchisme et le fédéralisme. Mais en tout cas, il ne participera plus à de la direction politique. Hein. Il se mettra à distance. Alors, c'est pendant la guerre qu'ils vont réfléchir à ce qui va être élaboré et qu'ils vont mettre en place... Alors, je vais vous expliquer pourquoi je dis « il ». Le programme des livres que Jacques Ellul va publier entre, effectivement, 1954 et 1988. Hein, oui. Donc, il y en a quatre qui font l'ensemble. Mais... il y a plusieurs textes où Jacques Ellul parle de Bernard Charbonneau. Et à chaque fois, il dit ben, « Les idées, c'est Bernard Charbonneau qui les avait. Hein. » Et donc, c'est pour ça que je les lis. Bon, après, on parlera d'Ellul, mais ça me paraît très important. Et j'ai combien encore? 3-4 minutes? 2 minutes?
Non, écoute, j'avais mis mon chronomètre en route. Tu en as 3.
Ah, c'est bien.
Non, 2-20.
Ah, on va essayer de tenir un petit peu plus, monsieur le bourreau. Et donc, c'est là que le sentiment de nature est un texte important, parce que c'est un texte où, important pour deux raisons. Bon, en gros, Charbonneau dit, bon, la nature, elle existe, elle n'est ni de droite ni de gauche, mais on peut l'utiliser de droite ou de gauche, et il va faire la différence entre, et c'est avant Pétain ça, hein, il va faire la différence entre l'utilisation de droite ou même d'extrême droite, qui consiste à avoir dans la nature un ordre dans lequel on force l'intégration des gens, et puis la nature qui dit... alors, pour lui, la nature de gauche, c'est donner l'accès à la loi, au loisir de tous dans la nature. Il dit que ça ne suffit pas. On n'a pas besoin d'un dimanche à la campagne. On a besoin d'une vie moins artificielle. Et donc, ce qu'il va dire et qui va faire l'articulation avec le travail de Jacques Ellul, c'est qu'il va dire « Nous en sommes à un développement technique, entre autres choses, tel que le besoin, ce n'est pas de s'affranchir de la nature en la maîtrisant techniquement, comme on l'a fait. Ça, on y est arrivé assez. Ce dont on a besoin, c'est de trouver dans la nature les forces qui nous permettent de nous opposer à tout ce qui nous empêche d'être nous-mêmes. Souvenez-vous, c'est les personnalistes. Hein, qui nous empêche d'être nous-mêmes, de vivre dans cette société moins artificielle dont on a besoin. Et donc, il y a, si vous voulez, l'articulation entre le sentiment de la nature et ce qui va devenir l'étude du système technicien. C'est l'idée d'un changement dans l'histoire, qu'on est arrivé à un moment de l'histoire où la nature n'est plus l'obstacle dont il faut s'affranchir, que ce qui pose problème, c'est une société de plus en plus artificielle. Et là aussi, Ellul lui rendra, vous parliez de système, Ellul lui rendra hommage, cette idée qu'il ne s'agit pas simplement de faire une critique de la technique, mais de voir comment la technique structure la société. C'est Charbonneau qui l'a eu. Donc, ils ont poursuivi. Alors, je donnerai juste très vite un élément. Vous voyez qu'ils font ça très tôt. Et donc, quand dans les années 70, quand rapport Meadows, etc., et développement des associations, on va les retrouver. Hein, c'est des précurseurs qui ont vécu, qui ont été reconnus comme précurseurs. Et eux, ils vont continuer, ils vont profiter pour écrire, pour intervenir, ils ont beaucoup, par exemple, lutté dans les années 80 contre la bétonisation du littoral girondin. Hein. Donc ils ont fait des luttes, ils n'ont pas simplement montré ce qu'était le système technicien, ils ont fait des luttes, et des luttes finalement de... Là aussi, appelez ça comme vous voulez, protection de la nature ou défense de la nature, où ils se sont défendus avec la nature. Mais moi, ce qui m'a le plus attiré finalement, c'est cette amitié qui est quand même rare. Hein. Une amitié intellectuelle, ça n'existe pas souvent. Et puis, cette articulation entre le rapport à la nature et le rapport à la technique.
Merci beaucoup, Catherine. Alors, j'avais envie de demander à Cédric d'enchaîner, mais peut-être s'il y a éventuellement deux petites questions, pas plus, de précision dans l'exposé de Catherine, je veux bien qu'on les prenne avant de donner la parole à Cédric. Deux questions maximum, si possible une femme, un homme, ça serait très bien. Et donc il y a déjà... Shabadabada, il y a déjà un monsieur, là.
Un homme.
C'est pas un monsieur ? Si, pas sûr ? Vous avez dit pas sûr, donc... Vous êtes taquin, allez-y, posez votre question avant qu'on vous coupe le micro.
Ma question est la suivante. Y a-t-il des rapports ou des échanges entre les courants représentés par Jacques Ellul et son ami, et puis les mouvements surréalistes et les mouvements comme Jean Giono ? Au point de vue de la pensée, de la philosophie, des implications, je vois bien qu'il y a des différences, mais c'est quand même des périodes similaires, et ça traduit quelque chose dans la société, qui traversait la société avec des thèmes un petit peu voisins.
Alors, enfin, écoutez, ma réponse, c'est non. Dans ce que j'ai lu d'eux et sur eux, j'ai rien trouvé de tel. Bon, ceci dit, je ne sais pas tout. Mais si vous voulez, le surréalisme, c'est presque un peu tard, me semble-t-il. Et Giono, j'ai pas vu de... Bon, maintenant, on a montré dans Giono mais pas que je sache, voilà.
Est-ce qu'il y a une deuxième question ? Sinon, on enchaîne. Alors, peut-être, monsieur, donc la question, c'est... Est-ce qu'il y a des formes de filiation d'une certaine
Alors,
manière
Alors on les rapproche souvent. Je pense qu'ils sont en fait très différents. Là aussi, je pense pas que ni Charbonneau ni Ellul n'aient lu Heidegger. Je crois, mais là aussi, moi, je vais laisser passer la parole à Cédric. C'est de façon assez formelle qu'on peut rapprocher
la critique de la technique faite par Heidegger de celle d'Ellul et Charbonneau. Ne serait-ce que pour ce que je vous dis, si on lit Ellul et Charbonneau, il y a une référence à la liberté que vous aurez bien du mal à trouver chez Heidegger.
Merci Catherine pour ces réponses et merci à vous pour les questions. Et donc, on passe la parole pour une dizaine de minutes à Cédric Villani.
Merci Christophe. Chers amis, intelligence artificielle, parce que depuis que le gouvernement en 2017 m'avait confié, alors que j'étais parlementaire, une mission là-dessus qui a mené à la première stratégie nationale d'intelligence artificielle, j'ai été amené à écumer les colloques en la matière, encore maintenant. Ça a été des centaines de colloques en tout et des milliers de personnes rencontrées pour en discuter. De toutes ces rencontres, des rapports que j'ai pu coordonner, des différents échanges, il y a deux rencontres qui m'ont montré plus que tout autre que la clairvoyance, la lucidité sur des enjeux de l'humanité face à la technique pouvait venir de personnes qui ne comprenaient rien à la technique proprement dite. La première, et c'est un souvenir que j'ai eu rétrospectivement, celui d'une rencontre faite alors que j'étais étudiant en mathématiques dans les années 90, rencontre avec des étudiants des arts déco qui sont lancés dans une conversation sur la façon dont la programmation et l'informatique allaient un jour brouiller notre image même du vrai et du faux et nous emmener dans une société où cette confusion ferait peser un risque sur la démocratie. Je programmais certainement beaucoup, beaucoup mieux qu'eux et dans bien plus de langage, n'empêche que ce qu'ils me racontaient était juste une langue extraterrestre et inconnue. Et sur ce sujet-là, ils mettaient dans le mille et décrivaient avec 30 ans d'avance, eux qui avaient été nourris de cours d'art avec certainement un rapport avec la technique, peut-être influencé par Ellul ou peut-être par Stigler ou peut-être par Illich ou d'autres, ils voyaient beaucoup plus clair que moi qui étais avec mes enseignants, mes professeurs, bien plus à fond dans la technique elle-même. Et la deuxième rencontre, c'est avec l'œuvre de Jacques Ellul, comme je vais vous le raconter. Christophe Fourel, il y a quelque temps, pour préparer cet anniversaire, le 30e anniversaire de la disparition de Ellul, me dit « Cédric, pourquoi ne ferais-tu pas quelque chose sur l'intelligence artificielle et Jacques Ellul ?» Et bien sûr, je lui dis « oui », sans savoir exactement ce que j'allais y trouver. Et je connaissais Ellul, pas directement, mais indirectement, en particulier par l'ouvrage de Jean-Luc Porquet, que citait tout à l'heure Emmanuel Bodinier, l'excellent ouvrage Jacques Ellul, l'homme qui a presque tout prévu. Et ça a été l'occasion de me replonger non seulement dans l'ouvrage de Porquet, mais aussi des commentateurs, certaines synthèses, des articles, et puis dans une partie, directement dans une partie de l'œuvre de Ellul. Alors l'œuvre de Ellul, c'est 70 ou 80 ouvrages, peut-être un millier d'articles, ça se compte en dizaines de milliers de pages. C'est donc forcément une fraction que j'en ai lu. J'ai lu une dizaine de livres, j'ai lu quelques analyses, et je vais vous en livrer les principales conclusions. J'ai lu en particulier ces trois grands textes sur la technique, sur l'humain et la technique. Le premier qui a lancé sa carrière, qui a été publiée en 1954 et sur lequel il travaillait depuis quelques années déjà, « La technique, l'enjeu du siècle ». Ensuite, le système technicien qui arrive plus tard et finalement le bluff technologique dans les années en 1988. Donc une œuvre qui dure en gros une quarantaine d'années avec une évolution entre différents ouvrages, des thèmes qui reviennent et une richesse considérable. Et l'œuvre d'Ellul ne s'arrête pas à ces trois ouvrages, bien sûr. Ellul est à la fois un sociologue, un philosophe, un polémiste, et c'est quelque chose qui lui tient à cœur. C'est un théologien. La plupart de ses ouvrages parlent, par exemple, soit de sociologie, de philosophie, soit de théologie, mais quelques-uns parlent des deux à la fois, et parfois ce sont les plus intéressants, ceux qui ont cette approche combinée. Et sur l'intelligence artificielle, voici mes principales conclusions. Premièrement, Ellul n'avait rien compris à l'intelligence artificielle, mais tellement rien que ça fait même rigoler, quoi. Et d'abord, on a avec Ellul quelqu'un qui n'a pas compris l'informatique et ne croit pas en l'informatique. Il a cru brièvement en l'informatique dans les années 80 comme quelque chose qui allait émanciper l'humanité en donnant plus de capacité à l'individu. Et puis, il est revenu là-dessus et a déclaré que ça ferait partie, au contraire, du système aliénant de la technique. Alors, dans les années 80, Ellul nous indique que, à son avis, ça y est, les ordinateurs ont atteint leur maximum de capacité et qu'il n'y a plus de motivation pour aller au-delà. Rétrospectivement, si on compare aujourd'hui, la capacité des ordinateurs a gagné un facteur à peu près 10 milliards, ce qui fait de sa prédiction l'une des pires de toute l'histoire de la réflexion sur l'informatique. Ellul rejette après ça tout ce qui est engendré par l'informatique, y compris le rapport Meadows que citait Catherine tout à l'heure, dont les conclusions ont été depuis globalement confortées par la recherche universitaire récente, mais Ellul n'y croit pas et les désingue comme le reste. Quand on s'intéresse plus spécifiquement à l'intelligence artificielle, avec le genre d'IA qu'on faisait déjà à l'époque d'Ellul, quand il publie le Bluff Technologique, c'est en 88, c'est la fin de ce qu'on appelait le deuxième printemps de l'IA. C'est le moment où on passe d'une période de grand enthousiasme à une période d'hiver, et un hiver qui va durer jusqu'en 1997, la date de la victoire de Deep Blue contre Kasparov. Mais au moment où Ellul écrit, on faisait déjà de l'intelligence artificielle, et en particulier il y avait des logiciels de reconnaissance de texte, des systèmes experts, des logiciels qui jouent aux échecs, et ainsi de suite. Et même si on compare ce que dit Ellul par rapport à ce qui existait à cette époque, on voit qu'il n'a rien compris. Par exemple, pour la reconnaissance de texte, il vous dit « Je connais quelqu'un qui écrit ses L, la lettre L, de trois façons différentes, comment l'ordinateur pourrait-il les reconnaître ?» Alors, c'est assez savoureux, parce que maintenant, on est à une époque où l'ordinateur reconnaît l'écriture manuelle humaine avec nettement mieux statistiquement que les humains eux-mêmes, mais aussi les algorithmes reconnaissent les fractures mieux que les médecins, reconnaissent les diagnostics, les cancers à partir des images mieux que les médecins, sont utilisés comme auxiliaires pour les experts en peinture pour déterminer si c'est la toile d'un maître ou une copie, etc. Donc, sur la reconnaissance, les capacités de l'algorithme et tout le système qui va avec ont dépassé celles des humains depuis un moment. Mais encore plus, quand on lit Ellul dans le texte, on voit aussi qu'il ne croit pas à l'approche statistique. Il pense que, par exemple, pour la sociologie, c'est une impasse qui amène à une inefficacité. Assez savoureux, parce que c'est la statistique sur laquelle repose le gros aujourd'hui des méthodes d'intelligence artificielle, mais aussi des méthodes de propagande dont Ellul était spécialiste et clairvoyant sur bien des aspects, j'y reviendrai. Et puis, on a là un Ellul qui pense de façon générale que toute l'informatique est un gadget, que tous ceux qui s'occupent à devenir des experts en programmation perdent leur temps et rangent ça dans la même ronchonnade que les vitupérations qu'il peut avoir dans certains autres de ses textes, au choix contre le tennis, contre le rock, contre les micros, contre les congélateurs, et ainsi de suite. Bref, un ronchon qui, sur l'intelligence artificielle, est particulièrement incompétent. Et alors, on pourrait dire, voilà qu'il disqualifie, mais bien sûr que non, et c'est là, c'est dans ce contraste qu'est la beauté de l'affaire. Quand on regarde les prédictions d'Ellul sur le rapport entre l'humain et la technique, ces grandes prédictions, et qu'on les analyse, on voit que ça s'applique à merveille comme un gant pour l'IA. Et pour montrer que ce n'est pas un biais de ma lecture, j'ai repris, et je vais reprendre très brièvement, la grille de Jean-Luc Porquet. Jean-Luc Porquet dégage, en particulier à partir de l'œuvre d'Ellul, 20 maximes, qu'il appelle les maximes techniciennes par rapport à la technique, qui résument une grande partie de la critique d'Ellul par rapport à la technique. Porquet lui-même ne parle quasiment pas d'IA. Il n'y a qu'un seul endroit où il parle un peu d'IA, et encore seulement sous l'angle de la science-fiction de l'IA qui prend son envol. Donc, ni Ellul, ni Porquet n'ont l'IA sur leur radar, et vous avez ces 20 maximes. Et donc, je me suis demandé, voici les 20 maximes, comment elles s'appliquent à l'IA? Et ma conclusion, ça a été que dans 18 sur 20, ça s'applique comme un gant. Et même dans certains cas, dans bien des cas, l'IA est le meilleur exemple auquel je puisse penser de la maxime en question. Alors, à grands traits, donc là, premièrement, l'un des principes importants, c'est la capacité de la technique à s'organiser. Alors d'abord, j'aurais dû dire quelque chose avant. Ellul insiste pour parler des techniques. Toute son œuvre d'analyse s'oriente sur les techniques plutôt que sur les sciences. Alors, on peut discuter. Sciences et techniques sont des cultures différentes et politiquement connotées différemment. D'ailleurs, il y a quelque temps, quand un gars s'était amusé à mettre en ligne un comparateur basé sur l'IA pour rire, est-ce que c'est de droite ou de gauche ? Et vous pouvez rentrer n'importe quel mot, il vous dit si c'est de droite ou de gauche, d'après le web. Et je m'étais amusé à rentrer science,
d'un côté, technologie de l'autre. Et comme je m'y attendais, il m'a répondu « Science, c'est de gauche, technologie, c'est de droite ». Et quand vous êtes en politique, vous vous rendez bien compte de ça. Il y a un côté de l'hémicycle qui cite la science, un côté de l'hémicycle qui cite la technologie. Et lui, il aime bien parler technique plutôt que des technologies. Il a raison parce qu'il y a eu un glissement de la langue qui fait qu'on appelle technologie ce qui bien souvent est technique. Technologie, c'est quand on considère globalement la théorie de la technique ou le discours sur la technique ou la science associée à la technique. Mais l'IA, c'est une technique et même c'est un ensemble de techniques. Et un des trucs caractéristiques de l'IA telle qu'elle s'est développée depuis 2012, l'ère des réseaux de neurones, puis des grands modèles de langage, c'est précisément qu'elle s'est faite beaucoup, beaucoup en technique et peu en science, avec des scientifiques dépassés, trouvant pas les bons concepts et les bonnes grilles de lecture. Et donc, une lecture par la technique plutôt que par la science de l'IA est très pertinente. Alors, premièrement, les techniques, nous dit Ellul, ça a tendance à s'organiser en système. Et évidemment, si vous avez une technique qui s'organise en système, c'est bien l'IA travaillant en interconnexion, en base de données, en connexion, en rassemblant ensemble les statistiques de tout. On parle bien de toile et l'IA s'appuie sur la toile. La toile, c'est le meilleur exemple qu'on connaisse de connexion. Mais aussi, l'IA se fait en connexion bien souvent entre le programmeur et l'usage, et donc s'organise d'une façon qui est extrêmement liée en connectique entre les différents savoirs. Deuxièmement, l'intelligence artificielle est très imprévisible. Là, c'est la technique est imprévisible dans son développement. Là, c'est le cas d'école. Et c'est précisément pour ça que les experts vous parlent de printemps, puis d'hiver, puis de printemps, puis de l'hiver, puis de reprintemps, puis d'été de l'intelligence artificielle. Même les spécialistes étaient incapables de prédire dans quelle direction ça allait. Ça a été la très grande surprise dans toute la communauté de l'IA quand en 2012, les réseaux de neurones ont été ressuscités. Les quelques originaux au sein de la communauté qui portaient les réseaux de neurones étaient marginaux à l'époque, aujourd'hui sont mainstream, ils ont reçu des prix Nobel, des prix Turing et autres, mais il y avait là quelque chose qui était complètement inattendu. Troisièmement, l'IA est inéluctable. À partir du moment où c'est lancé, impossible de l'arrêter. Avec l'IA, bien sûr, encore plus inéluctable qu'une course aux armements, qu'un outillage lourd, parce que l'IA sont toutes ces techniques qui viennent de façon légère, pour les développer à peu de frais chez vous, en s'appuyant sur les unes les autres, à partir du moment où c'est en réseau. Si vous ne l'adoptez pas, les autres vont l'adopter pour sûr. Ensuite, l'IA est autogénératrice, enfin la technique est autogénératrice, et l'IA aussi. Ça, c'est la plus célèbre des thèses de Ellul. La faculté de la technique à s'engendrer, à se reproduire comme indépendamment de l'humanité. Alors, j'entends par là, quand ça se reproduit, l'IA n'a pas tellement cette idée que l'IA va un jour se mettre à dire « j'ai plus besoin des humains et je vais m'engendrer moi-même » et ainsi de suite. Mais bien plutôt le fait que par nature, l'IA sont des programmes conçus pour améliorer des programmes, qui sont conçus pour écrire des programmes. Des programmeurs aujourd'hui qui écrivent du code à l'aide de l'IA et qui augmentent leur vitesse par un facteur 3, 5 ou 10, les estimations divergent, hein, mais c'est le même ordre de grandeur. Et puis, il y a aussi une IA qui se reproduit. Un truc qui se fait par IA, ça alimente une autre source, qui va permettre à un autre de faire de l'IA. En fait, je sais pas moi, que le secteur des transports utilise de l'IA, permet aux gens qui font des marketing de s'appuyer sur les transports pour savoir où est-ce qu'on va mettre leur publicité, qui s'appuie sur les... etc., etc. Donc, une reproduction. La technique engendre des contre-coups et des rebonds. Faites un truc pour avoir un progrès, puis ça engendre un truc qui vous oblige à développer une nouvelle technique pour contrer. Voilà, c'est à fond. Et regardez où on en est. Obligé de trouver des algorithmes qui parlent les cyberattaques, des algorithmes qui filtrent les images violentes pour empêcher nos algorithmes qui mettent les images violentes à disposition de tout le monde, des anti-spam qui bloquent de façon intelligente les mails que des programmes d'IA inondent à travers le monde, et ainsi de suite. Ou dans le domaine des drones, les drones qui sont conçus pour venir empêcher les drones de venir nous attaquer, etc. C'est toute une histoire considérable de se protéger de ses propres créations. Les gens de l'ANSSI, l'Agence nationale de sécurité des systèmes informatiques, nous disent qu'il faudrait consacrer un peu dans n'importe quelle institution environ 5% de notre budget à parer les cyberattaques en cybersécurité. C'est monstrueux quand vous faites l'équation. Et tout ça, c'est contrer nos propres créations.
D'autres, la technique est totalitaire. Alors quand il dit totalitaire, Ellul, c'est pas seulement que ça aide les régimes totalitaires, mais c'est à fond le cas, vrai, pour l'IA, mais aussi cette idée que ça vient écraser, s'envahir dans tous nos usages, dans notre culture, notre façon d'être, etc. Et s'il y a un truc qui s'infiltre partout, dans notre chambre à coucher, dans nos réunions, dans nos organisations, y compris dans nos organisations politiques, dans tout ce que vous voulez, c'est bien l'IA. On ne fait pas plus totalitaire en un sens. L'IA est sacrée, bien sûr, évidemment, la part de discours messianique. Alors, Ellul fait les deux. Il parle du sacré, il parle du messianique. Vous retrouvez les deux du côté de l'IA. Si c'est de l'IA, c'est bien. Si c'est de l'IA, c'est quelque chose qui va venir nous transformer. Vous entendez des chefs d'entreprise, j'en ai entendu dans les colloques, vous dire, quand vous voyez un truc qui vous parle comme ChatGPT, c'est évident que ça va révolutionner le monde et qu'il faut investir là-dedans. Et puis, pour ce qui est du messianisme, vous entendez un Eric Schmidt, l'ancien patron de Google, qui vous dit, comme nous n'arriverons jamais à respecter les accords bas carbone de l'accord de Paris, autant les abandonner. Et à la place, tout miser sur la création d'une super intelligence qui nous indiquera la solution. Ça, mes chers amis, c'est le messianisme à plein. C'est le truc qu'on va créer, le nouveau Dieu qui va nous montrer le chemin, le nouveau sauveur. Bon. Alors, la technique participant à l'ordre international, bien sûr. Vous avez aujourd'hui des gens, des conférencières comme Asma Mala ou Ophélie Coyot qui vous livrent partout des analyses sur la façon dont l'IA modifie les rapports géopolitiques. Et dont d'ailleurs les règles du débat économique géopolitique ont été tordues par l'IA. Et lui, il aimait bien dire que la technique s'impose à l'économie et pas l'économie à la technique. Un cas d'école, c'est la façon dont les États-Unis se sont assis sur leurs propres règles antitrust pour préserver leurs géants de l'informatique, leur Google, Amazon, etc., qui n'auraient jamais dû exister dans une économie libérale sincère gouvernée par des lois du marché, et dont on voit aujourd'hui d'ailleurs tout le problème démocratique qu'elle pose quand elle s'associe au pouvoir politique. Si les États-Unis les ont gardés alors qu'ils ont pas eu, alors qu'ils ont démantelé dans le temps AT&T, qu'ils ont démantelé leurs gigantesques entreprises de pétrole et ainsi de suite, c'est parce qu'il y a la grande compétition technologique avec les BATIX chinois. Et donc vous avez là un cas où la nouvelle donne imposée par la technique modifie l'ordre économique sous l'influence de la géopolitique. Récemment, quelqu'un m'a rapporté une conversation avec le secrétaire d'État américain à l'énergie qui lui disait explicitement « Nous sommes convaincus que c'est l'intelligence artificielle qui permettra aux États-Unis de dominer le monde. Et mon boulot, en tant que secrétaire d'État à l'énergie, c'est de permettre que le secteur de l'IA ait toute l'énergie dont elle a besoin. » Voyez ici comme c'est marquant en matière d'analyse politique. L'ordre international, nous dit Ellul, la propagande, nous dit Ellul, et bien sûr, même, il a fallu des années avant de trouver la bonne définition pour l'IA. Et la meilleure définition à laquelle je puisse penser, je vous la livre, on appelle intelligence artificielle toute technique d'automatisation électronique des tâches qu'on aurait cru réservées aux humains ou à tout le moins aux êtres vivants et qui attirent le buzz. Mais il faut mettre le buzz dans la définition de l'IA. Si ça ne marche pas, si ça fait pas le buzz, on l'appellera pas de l'IA. Et une des raisons pour lesquelles l'IA s'est maintenue, alors que c'est pas de l'intelligence, c'est parce que ça attire le buzz, ce mot intelligence. Ellul nous parle du bluff, bien sûr, et vous faites pas plus en bluff que l'IA avec des robots qui prétendent être des humains, robots au sens algorithmique du terme, hein, un agent conversationnel, avec parfois un truc qui est de l'IA et qui prétend être automatisé et qui est alimenté par l'humain, avec des gens qui vous vendent sans arrêt le truc qui va révolutionner et ainsi de suite. La technique épuise les ressources, on y est à fond. Épuise l'énergie, épuise les terres rares, épuise tout ce que vous voulez. Il y a des problèmes de ressources en eau et ainsi de suite. On a quelque chose qui est ambivalente, bien sûr. Faites pas plus ambivalent que l'IA. Chaque fois que vous avez un usage positif qui vient là, c'est écrasé en pratique par le fait que les adversaires viennent l'utiliser aussi. On va vous dire, l'IA est très bien pour les énergies renouvelables parce que ça optimise les positions des éoliennes dans les parcs d'éoliennes, ça économise de l'énergie, de ce que vous voulez. C'est vrai, sauf que ça aide aussi le secteur pétrolier qui passe des contrats pour des milliards de dollars avec les grands et que ça les aide à trouver plus de pétrole, à faire des campagnes de publicité, de lobbying plus agressives, etc., etc. l'IA associée, la technique associée à l'image. Oui, et j'y reviendrai. Une des grandes caractéristiques de notre époque de l'IA, c'est que c'est une époque de l'image. Avec le gros, le flux des communications de données, ce sont des images, des films, et c'est ça devenu la source d'information au numéro un. IA génératrice et avaleuse de culture, bien sûr. Le secteur de la culture est tétanisé face à l'IA parce que c'est à la fois générateur de culture et avec une puissance qui est monstrueuse, et aussi c'est avaleuse de culture dans deux sens. D'une part, ça se nourrit des créations de culture qui sont faites par les uns et les autres, et d'autre part, ça vient manger des pans entiers du marché de la culture. La technique ségrégante, bien sûr, c'est le discours très explicite aujourd'hui des boîtes de tech. Si vous mettez à l'IA, vous avez une chance de garder, d'être dans la course, sinon vous allez juste être out. IA messianique, j'en ai déjà parlé. Alors, intéressant, Ellul nous dit que la technique vient avec un espoir toujours trahi de révolution. Eh oui, l'IA, c'était ce qui arrivait avec cet espoir d'émancipation, ce qui va vous permettre d'avoir des idées créatives, de sortir du rang. Et ça se retrouve être le truc normalisateur, servant les intérêts en place, servant le gouvernement des États-Unis, le gouvernement chinois, servant l'art de la guerre pour écraser plus les uns et les autres. Un vrai espoir trahi. Alors, là sont tous les points dans lesquels il a vu dans le mille, et il y a deux points sur lesquels je vous dis, là, en revanche, quand on le lit, on voit que il y a un loupé. Le premier de ces points, c'est quand il dit que la technique est incritiquable, ou du moins peut-être incritiquable à son époque, mais aujourd'hui, les commentateurs et les éditorialistes qui critiquent l'IA, vous en trouvez. Et y compris certains qui ont pignon sur rue et qui sont invités, même dans les grands rendez-vous de la tech, critiquant l'IA pour son bilan écologique ou l'IA pour la question de la société. Et on voit qu'il est bien plus facile aujourd'hui de critiquer la technique qu'à l'époque d'Ellul. Et deuxièmement, Ellul nous parle de l'IA comme quelque chose qui renforce l'autorité des États. Et ici, ça ne renforce pas l'autorité des États, ou en tout cas, on peut voir par rapport à nous, ça ne renforce pas l'autorité de l'État français. Au contraire, ça la disrupte, ça la dérange, le contrôle, le pouvoir étant beaucoup plus du côté des multinationales et des grands intérêts. Ça renforce l'autorité de ce qu'on va appeler les empires. Quand vous avez les États-Unis, quand vous avez la Chine, des entités qui sont à un niveau gigantesque et plutôt à un niveau continental qu'à un niveau d'État, et dans lesquels il y a une collusion qui se retrouve entre le pouvoir politique et le pouvoir économique. Mais ici, l'IA en France ou sous les démocraties dans la grande majorité des pays, ça sape l'autorité de l'État plus que ça ne le renforce. Alors, quelques points sur lesquels il faudrait nuancer le jugement d'Ellul en général. Premièrement, ce qui est beaucoup plus vrai aujourd'hui qu'à l'époque d'Ellul, c'est la compétition acharnée et féroce entre les techniques. Les différentes techniques d'IA, les différentes compagnies d'IA se livrent aujourd'hui une concurrence absolument au couteau. Ellul ne croit pas en la créativité qui est dans la technique. Et pour le coup, il y a des exemples, y compris, ne serait-ce que pour en prendre un, le fait que l'IA ait découvert des stratégies de jeu de Go qui avaient échappé aux humains depuis les siècles et les siècles qui jouent au Go, c'est un exemple de créativité. Et d'ailleurs, ça a fait du bien à la théorie des joueurs de Go. Les spécialistes se gargarisaient du niveau extraordinaire auquel était arrivée l'humanité, en arrivant à théoriser sur l'écart qui les séparait encore de la perfection du niveau de Dieu. Et l'IA est venue là pour leur montrer qu'ils étaient bien plus mauvais qu'ils ne le croyaient. Ce qui est assez sympa. Ellul ne croit pas à l'utilité de l'IA. Et là, il y a plein d'exemples qui vous montrent quand votre projet est bon et quand vous faites œuvre utile, l'IA utilisée à votre service va faire œuvre utile aussi. Ça va de l'IA utilisée par les chercheurs du GIEC à l'IA pour cartographier les médias climato-sceptiques, à l'IA pour mieux soigner le cancer, et ainsi de suite. Alors, maintenant, il y a quelque chose que je dois rajouter. Ah, si, pardon. Un autre point. Alors, mon plus gros point de désaccord avec Ellul, désolé, ça fait un peu
prétentieux de dire ouais, « Ouais, je fais le match avec Ellul », mais bon, je prétends pas du tout faire le match par rapport à quelqu'un qui a une analyse sur la technique aussi riche, mais il y a un point sur lequel je suis en vrai désaccord, c'est quand il théorise l'impossibilité d'une culture technicienne. Et je pense au contraire qu'il y a non seulement une culture, et que dans ce cas, c'est quelque chose qui s'est développé avec énormément de richesse, les différentes écoles d'IA, mais aussi un enjeu de culture populaire lié à la technique et de comprendre quels sont les types d'algorithmes qui sont derrière, les cas dans lesquels il faut s'en méfier, et ainsi de suite. Trois angles originaux que Ellul, dans lesquels Harry Ellul tape dans le mille, et où des trois angles où, en les découvrant, je me suis dit, ça alors, là, il y a une grille de lecture que, malgré les centaines de colloques auxquels j'ai participé, j'avais pas repéré comme étant particulièrement pertinente et qu'il arrive à choper. Alors, pareil, il pensait pas à l'IA, mais en lisant ces trucs, je me suis dit waouh. Premier, c'est sa description de la propagande de l'avenir. Et il décrit, je ne sais plus quand est sorti, c'était dans les années 60, je crois, il décrit dans cette technique de propagande, et il parle de la propagande de l'avenir comme étant organisée dans des cellules de groupes qui discutent d'un même sujet et qui s'affranchissent des limites habituelles de la famille ou des États, et dans lesquels les individus se retrouvent avec la main eux-mêmes et qui, dans le discours, en débattant, se retrouvent à se convaincre eux-mêmes de la technique de propagande. Et quand vous y réfléchissez, vous trouvez là les bulles d'information, les bulles qui permis par la connectique, qui transcendent les barrières physiques, les barrières familiales, les barrières de société, dans lesquelles le renforcement et la chambre d'écho permet aux gens de se retrouver avec un niveau de conviction qui est bien, bien plus grand que si ça avait été un truc organisé par l'État. Le deuxième, c'est quand ça m'a beaucoup marqué, de ses ouvrages, celui qui m'a le plus marqué, c'est un ouvrage qui s'appelle « La parole humiliée », où il organise une grande dialectique entre la parole et l'image. Dialectique brillante, il puise dans les textes religieux, il puise dans la sociologie, dans la philosophie, dans l'économie, et entre la parole qui libère et l'image qui enchaîne, la parole qui vient de Dieu et l'image qui détourne de Dieu, la parole qui permet de réfléchir et s'inscrit dans le temps long, et l'image qui au contraire vous assène avec un caractère instantané sa vérité. Et d'abord, c'est intéressant de se dire que quelque chose de spécifique avec l'IA pour l'image et avec l'IA pour la parole, qui d'ailleurs viennent avec leur technique propre. C'est pas quand l'IA a généré des images spectaculaires qu'on s'est mis à la révérer, mais quand elle a généré des paroles qui semblaient comme faites par des humains. Mais d'autre part, quand vous regardez ce qui sert à convaincre les gens, c'est bien le flot d'images permanent. Et ces images, en particulier, qui viennent sur les fils Instagram, qui viennent sur les fils d'information en continu et qui, sans arrêt, vous infiltrent et vous donnent dans le métro, partout, leur vérité qui s'impose à nous. Et quand on relit cet essai, je me suis dit, waouh, là, il y a une prescience remarquable d'un des grands débats qui vont avoir lieu. Et pour la parole, c'est le dernier truc, Ellul s'élève avec toute sa grande force de polémiste contre un fléau qui sent monter à son époque, qui s'appelle l'anonymisation de la parole singulière dans le flot statistique de la pensée. Et il tape contre les philosophes qui cherchent à faire des synthèses sans oser s'affirmer dans leur singularité, dans leur humanité. Et pour lui, c'est aussi sa vision théologique. Ça fait partie du propre de l'humanité que d'affirmer sans arrêt sa singularité avec sa pensée propre. Et les grands modèles de langage, si vous y pensez, les ChatGPT, Meta, tout ça dans leurs principes, Yama, Mistral ou ce que vous voulez, c'est un peu ce qui aurait été le pire de l'horreur pour Ellul. C'est à la fois quelque chose qui fait semblant de parler et prend comme une image divine dans la tête des gens qui le regardent, se prosternant devant l'idole ChatGPT, mais quelque chose qui est branché sur le flot statistique, qui puise sa parole dans l'anonymisation de toutes les pensées singulières des humains et qui vient s'infiltrer de façon totalitaire dans tous les aspects de notre vie. Là où précisément le boulot de ChatGPT, c'est de vous convaincre que le truc qu'il fait, c'est ce qui va vous permettre de résoudre tout, qui va faire vos rédactions à votre place, qui va faire votre devoir de maths, qui va vous indiquer comment séduire votre lettre aimée, comment préparer une recette de couscous, tout, tout, tout. Et donc c'est le sommet, si vous voulez, de l'idolâtrie dans tout ce qu'elle a d'anti-religieux. Et pour finir, donc, Ellul aime bien séparer la notion de réalité de la notion de vérité. Pour lui, la réalité, c'est la réalité telle qu'elle est, physique, tangible, telle qu'on la connaît, avec ses lois qui gouvernent le monde dans toute sa matérialité. Mais la vérité, ce sont les grands principes qui gouvernent le monde. Et il dit, Christ n'a pas connu la réalité des lois de la physique d'aujourd'hui, mais il a connu la vérité éternelle. Ben, ça s'applique exactement à lui. En ce qui concerne la réalité de l'IA, il n'a rien compris. En ce qui concerne la vérité des lois qui gouvernent l'algorithmique vis-à-vis des humains, il a mis dans le mille. Et ça rend le personnage et son œuvre encore plus attachantes et singulières et brillantes.
Merci beaucoup Cédric et merci surtout d'avoir tenu le temps de parole que je t'avais indiqué.
Toujours Christophe, toujours, tu me connais.
Voilà. Ce qui est... Mais évidemment, je regardais tous nos amis t'écouter et je me disais, si je l'interromps, je me fais lyncher. Donc je n'ai pas pris de risque. Hein, tu me connais.
Je te connais.
Voilà. Alors oui, Catherine. Simplement, donc ce que je voulais simplement dire, que la, chez Ellul, la technique s'autonomise, mais comment dire, Cédric Villani, dans un débat, il s'autonomise aussi. Voilà. Catherine, non, une réaction.
Juste, pas une réaction, pour peut-être revenir à Ellul, on n'en est pas sorti. Mais si tout ce que tu reprends est vrai, et c'est l'interprétation qu'on fait le plus souvent d'Ellul, donc ce qu'on résume sous le titre d'autonomie de la technique, que tu as très très bien distingué, on est quand même assez mal parti.
Hein, le trait... juste en une minute.
Hein, puis tu me laisses parler après.
En une minute. J'avais mis le mot souveraineté dans les trois mots-clés de la remise de mon rapport en IA. Et quand je dis souveraineté... Il y a deux sens dans lesquels on peut entendre souveraineté, et je les avais bien identifiés à cette époque-là. Il y a la souveraineté au sens politique, géopolitique, juste pas se faire imposer sa loi par les autres, que ce soit les États-Unis, la Chine ou qui sait quoi, ou par le national, si c'est un problème local ou qui sait quoi. Mais il y a aussi la souveraineté au sens de l'humain, de pas se faire imposer tout par la technique. Et de se dire, dans chaque domaine, où est-ce qu'on met la barrière de dire, voilà, des trucs que je garde, moi, pour l'humain. Je vais te donner un exemple très concret. Quand un scientifique, un mathématicien m'a dit, on est en train de travailler sur un projet de mathématiques, d'IA faisant de la mathématique, et est-ce que ça t'intéresse, je suis sûr que ça t'intéresserait, un truc qui ferait automatiquement dans tes preuves, qui t'aiderait en faisant la partie fastidieuse des preuves, en te laissant te concentrer sur la partie plus créative de haut niveau. Et j'ai dit, surtout pas, c'est important pour moi de faire aussi la partie fastidieuse et bas niveau, je suis convaincu qu'il y a de l'intuition là-dedans, et je veux déléguer rien de mon entraînement sur le raisonnement en mathématiques à l'IA. C'est mon boulot, mon entraînement, mes connexions neuronales durement transformées au terme de milliers d'heures de labeur là-dessus, et je tiens à l'entraîner.
Les amis...
Je vais oser... Non, mais je voudrais dire quelque chose. Quand voilà. Même.
C'est toujours la même chose. Le débat s'autonomise, c'est-à-dire que il n'y a plus de possibilité de réguler.
Je vais très vite terminer. Quand même, je reviens à ce que tu as montré... Si on prend les principes d'Ellul, on est coincé.
On va pas dire qu'on est en super bien parti. Bon. Et pour ce qui est de l'écologie, puisque c'est le thème ici, en 2018, je disais, il y a du bon, il y a du mauvais à suivre. En 2025, je dis, au mieux, c'est un énorme obstacle supplémentaire. Au pire, c'est une catastrophe complète.
Bon, et alors comment échapper à la catastrophe? Moi, j'ai écrit contre la catastrophe. Tu as indiqué des pistes. Hein, du genre, on peut la critiquer comme on ne pouvait pas il y a 10 ans ou 20 ans, et deuxièmement, on peut l'utiliser. Bon, la question qu'on peut se poser, c'est Ellul, comment il a vécu, parce que lui, il n'avait pas donné ce type de réponse. Alors, je crois qu'il y a deux choses. Il y a, c'est ça qui est non-conformiste chez lui. Il y a la religion, ça a été très très important pour lui pour échapper à ça. Et puis, il y a l'amitié. Et il a... Il y a une, il fait une remarque, à un moment il a un livre d'entretien, où il dit « L'amitié, c'est finalement ce qu'il y a de plus résistant. C'est ce qu'on ne peut pas absorber dans l'INRA, dans l'IA. » Et donc ça me paraissait important de revenir, parce que moi j'y tiens à Elul et Charbonneau, en disant « Lui, il n'avait pas les réponses que donnait Cédric pour dire « On peut y échapper. » Mais dans sa vie, il avait trouvé des moyens, c'est en ça qu'il a toujours été non-conformiste, de résister à ce conformisme qu'est la technique. C'est pas une grosse solution, mais c'est quand même une petite solution.
Merci Catherine pour ces remarques qui du coup relient vos deux interventions. Donc on a une petite vingtaine de minutes devant nous et donc on va prendre un certain nombre de questions. Alors Alain, tu as été le premier.
Toujours.
Ah non. Il s'est mis au premier rang pour pouvoir poser sa question.
Non, je ne pensais même pas en poser.
Avec sa veste orange qui rappelle certains parcas rouges d'un certain homme politique.
Oh, t'as vraiment l'esprit mal placé.
D'Auvergne-Rhône-Alpes d'ailleurs.
Non, une question et une réflexion dans le général. La première question, t'as été effectivement, tu l'as dit, à l'initiative, ou en tout cas on t'avait mandaté pour écrire un rapport sur l'intelligence artificielle il y a de cela quelques années. Par rapport à tes travaux, tes réflexions d'aujourd'hui, qui ont été merveilleusement bien synthétisées par ton petit exposé, est-ce que tu l'écrirais de la même manière ? Première chose, ça c'est une question. La deuxième chose, c'est un commentaire que je voudrais faire à partir d'un ouvrage que je suis en train de lire, qui s'appelle « La bêtise artificielle », d'une philosophe qui s'appelle Anna Lombert, je ne sais pas si tu as entendu parler. En tout cas, c'est une femme, une universitaire qui travaille un peu dans les pas de Bernard Stiegler et qui parle de prolétarisation de la pensée, de la créativité, etc., qu'engendre l'intelligence artificielle. Est-ce que, et j'ai l'impression que tirer un peu dans ce sens-là, d'après ta conclusion, ta conclusion finale, que tirer un peu dans ce sens-là, est-ce qu'il n'y a pas un risque quand même avec l'intelligence artificielle et comment s'en protéger ? Parce que c'est ça politiquement la question qu'il faut qu'on se pose, c'est comment se protéger de ce risque de bêtise artificielle.
Merci Alain. Je propose qu'on prenne encore peut-être une et deux questions et puis on fera un deuxième tour. Oui, monsieur au milieu. Voilà.
On parlait d'affiliation, de connexion au début. Et avec Grothendieck, il y en a eu entre Elul, Charbonnier et Grothendieck.
Bon, ben, je répondrai.
Non, c'est très bien, je te laisse.
Et puis, je crois qu'il y avait une troisième question ici, à droite, là. On ne vous entend pas ? Comment ?
C'est pas une question, c'est plutôt un sentiment. Le terme d'intelligence artificielle me heurte beaucoup. J'aimerais beaucoup qu'il y ait autre chose que ce truc qui nous fait travailler l'esprit de travers. Non, déjà ça... Comment ?
C'est souvent comme ça, les mots.
Ah oui, mais celui-ci, il est un peu catastrophique parce qu'il est prégnant. Il est sans arrêt là et il n'y a jamais dans une intervention une réinterrogation sur le mot. Ah ben là, ce soir, un petit peu, mais...
On n'en parlera. On ne peut pas interdire les mots.
Je ne demande pas de l'interdire. Je demande que dans vos pratiques à vous, vous en ayez d'autres. Si on peut le dire comme ça. C'est plus direct. Donc moi, je ne saurais pas quel mot utiliser, quel mot pourrait... Donc Cédric a essayé de dire quelque chose, c'est une phrase complète pratiquement. Donc c'est un peu long, mais il y a certainement d'autres choses qui pourraient dire. Ma deuxième chose, je me demande si dans cette histoire d'intelligence artificielle, ce n'est pas les mathématiques en elles-mêmes qui sont cause.
On est là jusqu'à...
Ah ben, mais c'est quand même pas vrai, parce que quand on est en train de parler de généralisation, la généralisation, c'est dû entre autres aux mathématiques et au pouvoir, et à la mondialisation. Donc on ne peut pas séparer ça de phase historique, de phase politique, et des éléments d'intelligence, des éléments verbaux qui sont utilisés, concepts qui sont utilisés.
On va en parler, bonne question.
Merci, on s'arrête là. On fera un deuxième tour. Peut-être, Catherine, je me tourne vers toi pour... la remarque, question d'Alain sur la bêtise artificielle et le risque de prolétarisation de la pensée dans la droit fil des réflexions de Bernard Stiegler et puis l'éventuel et puis Grothendieck, voilà.
Alors, non, sur la prolétarisation, j'ai pas lu le livre, je peux partir. Il va en parler. Grothendieck, oui. C'est-à-dire que quand se développe la... D'une part, alors c'est pas Grothendieck, mais c'est des gens qui étaient avec Grothendieck, au moment, dans ces années 30 du non-conformisme, il y a un début de critique, non pas de la technique, mais de la science, hein, et qui remet en cause la perte d'indépendance de la science. Et donc, on va les retrouver après, dans les années 70. Et Grothendieck va faire partie de ce mouvement où l'écologie, d'une part, ça repose sur un travail scientifique, mais en même temps, ça suppose aussi une contestation de ce que Jean-Marc Lévy-Leblon avait nommé l'autocritique de la science. Eh bien, quand Ellul et Charbonneau se mettent avec ces mouvements écologiques en train de se constituer. Il y a quelqu'un qui s'appelle, son prénom m'échappe, mais Samuel, qui est connu, et qui publie une sorte d'anthologie, ils sont tous dedans.
Pierre Samuel. Merci Catherine. Alors, peut-être on va te passer la parole à nouveau, Cédric. Il y avait une première question d'Alain tout à l'heure sur est-ce que le rapport que tu as écrit, tu l'écrirais à nouveau?
Ouais. Alors d'abord, le rapport, qu'on soit clair, on était une équipe. Et en tant que porte-parole et très sollicité, mon boulot était plus faire le chef d'orchestre et la synthèse que l'écrire le rapport lui-même. J'avais une super équipe, très pluridisciplinaire. Avec aussi bien un grand spécialiste de programmation et intelligence artificielle, la personne de Marc Schoenauer, directeur de recherche à INRIA, pardon, et d'autres qui avaient des compétences en philo ou numérique en général, l'un en question militaire et qui est aujourd'hui d'ailleurs le patron de l'agence d'intelligence artificielle au service de la sphère militaire. Et s'il y a un domaine qui a évolué plus rapidement que ce qu'on pouvait prédire en 2018, c'est en matière d'IA, c'est bien le domaine militaire qui aujourd'hui, en ce moment d'ailleurs, de progresser jour après jour sur le champ de bataille ukrainien en particulier. C'est pas spécialement une bonne nouvelle, c'est le truc de toute l'IA qui m'empêche le plus de dormir, je dirais, c'est vraiment celui-là. C'était le seul sujet sur lequel on s'était engueulé au sein de l'équipe d'ailleurs, montrant bien que c'est un sujet qui pose des cas difficiles et de conscience, et même quand on est sincère et bien informé. Et ce qui est en train de se faire en changement, nouvelles règles, nouvelle façon mondiale de voir les choses, le fait que l'an dernier, 4 pays européens soient retirés du traité de la Convention internationale sur les mines antipersonnelles nous montre qu'on est dans une redéfinition très impressionnante des questions de la guerre. Un général américain a dit même, pas longtemps, que pour lui, l'arrivée de l'IA, c'était le plus grand changement qu'on ait jamais vu dans l'art de la guerre. Alors, ça, certainement, on exagère un peu, mais c'est un changement monstrueux. Et donc, il y a, en tout cas, ce rapport pluridisciplinaire au nom d'une équipe. Globalement, le rapport a bien tenu le choc et il est encore utilisé comme référence dans certains cas, juste aussi pour comparer. Il y a des trucs sur lesquels on avait plutôt bien anticipé, d'autres plutôt pas bien ou sous-estimé. En médecine, ça allait plutôt plus vite que ce qu'on pouvait prédire. En transport, moins vite. Et le soufflet du véhicule autonome est retombé. Et rétrospectivement, on se dit qu'on n'aurait jamais dû y croire. En tout cas, parce qu'à la fois, c'est un truc plus compliqué que prévu. Et en plus, c'est juste pas la bonne solution par rapport aux grands problèmes généraux. Et quand on fait des analyses en termes de physique et tout ça, on le voit bien. Sur les questions d'écologie, c'est décevant la façon dont ça a été pris en œuvre. Mais ça, c'est lié au fait surtout de la faiblesse politique de l'écologie globalement au plan national et au plan mondial. S'il y a une des grandes leçons tirées. Donc, si je devais le refaire globalement, je pense que le plan d'ensemble n'était pas mauvais. J'insisterai encore davantage sur le fait que les gros enjeux et les grosses difficultés sont de nature bien plus politique que technique. J'insisterai davantage sur la nécessité de mettre en débat et en particulier à l'échelle locale. L'échelle locale sont des échelles de confiance, par exemple pour les acteurs d'un territoire et ainsi de suite. Et puis, on n'avait pas prévu, personne ne pouvait prévoir que les grands modèles de langage arriveraient avec une telle force et telle intensité, mais même avec cette grille de lecture, le rapport tient bien le test dans ces grands enjeux. Quand on regarde les recommandations principales, on voit qu'en gros, ça a été suivi à peu près à moitié par le gouvernement, ce qui est un pourcentage considérable. D'habitude, votre rapport parlementaire, si 10% est utilisé, c'est déjà bien, et la plupart du temps, comme on sait, il sert à caler les chaises bancales, etc. Bon. Parmi les points qui ont été le moins bien mis en œuvre, c'est la question de l'inclusion homme-femme, la question de l'intégration européenne, la question de la formation, qui sont des enjeux sur lesquels ça commence à se réveiller. Sur la bêtise, sur la prolétarisation de la pensée, juste un truc, comme on sait bien, prolétaire, c'est celui qui ne dispose pas des moyens de production, il a juste la force de ses bras et de cette façon, on dispose de lui comme on veut. Et l'un des grands dangers de l'IA, comme on sait, qui est bien analysé et qu'on voit, c'est l'érosion du savoir-faire et l'érosion de l'agilité intellectuelle. Bon. Et prolétarisation. Oui, parce que si tu es un gars dont le boulot, dont le métier vient de ton agilité intellectuelle, qui est une forme d'entraînement cérébral et puis d'expérience et tout ça, et que de ça tu es dépossédé, que tu deviens juste le gars qui appuie sur la machine, qui tape sur le bouton, tu te retrouves juste prolétarisé, remplaçable par n'importe qui, obligé d'appliquer des contraintes. Tandis que si ta valeur, elle vient de ton savoir-faire particulier, c'est différent. Alors quand les gens, il n'y a pas longtemps, Olivier Babot, Laurent Alexandre, c'était un article que j'ai vu passer dans Le Point disant c'est plus la peine de faire des études, l'IA va tout faire à votre place et tout ça, mais tu vois la connerie, tu fais pas d'études, c'est le meilleur moyen de garantir que tu sois complètement interchangeable, ça veut dire que tu n'as aucune compétence, plus ni physique ni intellectuelle, et tu deviens juste le pion balancé comme ça à travers tous les desiderata des grandes entreprises qui eux contrôlent l'accès au bouton et l'accès à la machine.
On s'en protège comment alors?
On s'en protège. Alors, précisément, moi, je suis convaincu que la compétence, elle reste. Je suis convaincu que les organisations humaines ne vont pas se lancer dans l'apocalypse des métiers, parce que le fait qu'il y ait des métiers, des emplois, des tâches aussi, c'est ça qui fait tenir les sociétés, que sinon, il y aura une révolution et tout ça. Alors, certains caressent le rêve d'une société dans laquelle tout le boulot est fait par les entreprises et au peuple, on les met tous au chômage avec le revenu universel calibré de façon juste assez pour qu'ils ne se révoltent pas et on s'occupe de partager juste la richesse entre les possédants. Ça, c'est une vision, en tout cas, c'est celle de Sam Altman ou des autres fous furieux. Bon. On s'en protège donc d'abord par cohérence politique et de bien comprendre et de s'interposer chaque fois qu'il y a un sujet de société. Ça passe par le travail des syndicats, ça passe par les rapports de force classiques et ça se joue en propagande classique et en sujet qu'on pousse classiquement et en information dans les partis et ainsi de suite. Donc premièrement, ce grand travail politique. Et ensuite, non, on ne suit surtout pas le conseil de Babot et Alexandre. On fait des études. On trouve sa spécialité, sa compétence, son agilité qui fera qu'on aura une certaine valeur en tant qu'humain. Le grand, quand on dit est-ce que l'IA va remplacer l'humain, la question elle est presque obscène parce que l'IA, la plupart du temps, c'est une fonction, au sens mathématique du terme. C'est un truc qu'on interroge, f de x égale y, c'est ça qu'on a appris les uns les autres au collège, au lycée. On lui donne un truc et ça associe un autre truc. Donc on lui donne une question, ça associe une réponse. Bon. Et donc ça, c'est très différent de ce qu'est un être humain avec sa volonté, son programme, son projet, sa façon de s'interroger sans que personne lui demande, etc., etc. Mais aussi ses liens sociaux et tout ce qu'on veut. Quand on dit est-ce que l'IA va remplacer l'humain, c'est la question de dire est-ce qu'on va remplacer les humains par des fonctions et juste mettre de côté ou laisser hors du projet de société tout ce qui fait l'humanité, les interactions sociales et tout ça. Et donc ça, on n'en veut surtout pas. Et dire, ok, il y a peut-être des fonctions qui vont être là, utilisées par les IA, eh bien ok. Mais un projet de société, une entreprise qui tourne, un projet politique, ça se fait avec des humains qui interagissent, qui se disputent, s'engueulent ou s'aiment bien, ou sont amis, etc. etc. Et donc ça, c'est une attitude à avoir un peu partout. On sait que les entreprises disent toutes qu'elles ont commencé à remplacer certains des jobs parce qu'elles sont équipées en IA et ainsi de suite. Et on sait qu'en revanche, que c'est impossible de prédire quelles vont être les grosses tendances macro sur l'emploi, parce que l'emploi, c'est des trucs tellement imprédictibles et qui obéissent à énormément de règles. Une des recommandations que j'avais faites dans le rapport, c'était la mise en place d'un observatoire / expérimentateur laboratoire sur les pratiques liées au sein du ministère du Travail, chargé de mener des expérimentations, de faire des stades, délivrer des tactiques, etc. La ministre de l'époque, Muriel Pénicaud, m'a dit « Ouais, super idée », puis après, il ne s'est rien passé. Sous le mandat d'Elisabeth Borne, alors au travail, là, ça avait, l'idée avait reprogressé, avait fait un peu de chemin, puis ça a été re-abandonné, mais c'est quelque chose qui... Ça fait partie des choses à faire et à voir. Bon, et ainsi de suite. Alors, un mot sur mathématiques qui serait la cause. Mon ami, mathématiques, c'est les grandes lois de l'univers, et qui, pour les gens comme moi, qui sont néoplatoniciens, comme on dit... considère que ça préexiste même à l'humanité. Donc si la mathématique est la cause, autant dire que c'est les lois éternelles de l'univers qui sont la cause de tout ça. C'est pas complètement exclu. Il y a des, peut-être que, enfin, certains argumenteront que c'est le destin de toute forme de vie intelligente que de trouver, d'arriver à la source de sa destruction en levant le voile sur telle ou telle loi de la physique qui va finalement l'apocalypse. Il y a une œuvre de science-fiction qui est un film de science-fiction que j'aime beaucoup recommander pour l'IA et qui est très bien pour ça. C'est le Planète Interdite, un classique de la science-fiction pour les amateurs, je crois que c'est les années 50 ou 60. Et ça, c'est, quand on le relit en se disant avec IA en tête, ça a une certaine saveur. Mais pour IA, il ne faut pas chercher si loin, et ce n'est même pas la solution que je vous propose, et même pas de moi. IA égale informatique avancée. Et c'est vraiment ce que c'est l'IA. Mais alors, c'est beaucoup moins sexy, évidemment, quand on l'écrit comme ça. Alors, sur Grothendieck, un dernier truc. Je vais juste vous lire une citation de Grothendieck, si je la retrouve. Alors, ici, je vais utiliser ma mémoire externe pour retrouver dans Grothendieck le truc que j'avais noté et qui était écrit en 1974 et qui, je trouve, est fort bien senti. Tu dis ? Oui, Grothendieck reçoit la médaille Fields en 1966, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Grothendieck est à coup sûr le mathématicien de la seconde moitié du XXe siècle autour duquel il y a eu le plus grand culte et qui a vraiment déchaîné les passions avec son côté révolutionnaire. Il y a des... Alors, il n'était pas plaisant dans tous ses aspects, hein, et c'était pas toujours simple de bosser avec lui ou d'être son ami, visiblement, de la part de tous ceux qui l'ont connu. Une partie de son œuvre la plus célèbre, École des Semailles, sont des règlements de compte interminables contre certains de ses anciens collègues, quelque chose de juste. Le livre est très touchant, il se livre beaucoup, mais il était également très dur. Alors, je ne veux pas reperdre le temps, donc soit je vais la trouver tout de suite, soit je vous la dirai juste après, la citation. Mais, voilà, c'est ça, elle est là. Paf. 1974, Grothendieck. Nous pensons, bah alors c'était l'époque où c'est arrivé encore qu'on dise nous au lieu de je. Nous pensons que de plus en plus la...
Pluriel
de majesté. Ouais, mais dans les articles universitaires, on les voyait aussi. C'était pas forcément une façon de pas dire je, voilà, justement. Ouais. Nous pensons que de plus en plus, la principale ligne de partage politique se trouvera moins dans la distinction traditionnelle entre la gauche et la droite que dans l'opposition entre les scientistes tenant du progrès technologique à tout prix et leurs adversaires, idestes grosso modo, ceux pour lesquels l'épanouissement de la vie, avec une majuscule, dans toute sa richesse et sa variété, et non le progrès technique, a priorité absolue.
Merci. Alors, on avait dit, j'avais promis un deuxième tour, donc monsieur, on aurait dû commencer par madame, mais je crois qu'il avait, levé la main, monsieur, madame, enfin madame, monsieur. Très bien. Allez-y, monsieur.
Toute technique a un arrière-plan économique. du temps de Ellul, c'était probablement le nucléaire et le pétrole qui étaient les grands investissements techniques de l'époque et les progrès de gestion technique aussi. L'IA semble franchir un saut considérable dans la mobilisation de capitaux et ce saut s'accompagne d'une présence dans le public marquée par la gratuité. Alors, elle n'est pas totale, mais le rapport entre le coût de ce qui est offert et l'investissement pour l'offrir est assez vertigineux. Alors, comment comprendre cette transition? Est-elle caractéristique de l'IA et quels sont ses risques? Voilà.
Merci.
L'intelligence artificielle, comment s'en protéger dans les démarches de formation et d'éducation?
Merci Aline. Et puis une dernière question, monsieur, et puis on s'en tiendra là.
Je connais trois cas de résistance contre les écrans. Un, les parents de la Silicon Valley évitent que leurs enfants soient mis devant les écrans avant 12 ans. Ils les mettent même dans les écoles Steiner. Deuxième exemple, une mère emmène son enfant de 2 ans voir le généraliste parce qu'il y a des signes d'autisme. Le généraliste dit, mais vous enlevez le petit Beans, l'ordinateur primitif qui sert à lui raconter des histoires et qui récite des chansons. Troisième exemple, c'est qu'il y a des pays qui ont pris des lois qui interdisent l'écran à l'école.
Merci. Donc, il n'y avait pas de questions, en fait. C'était simplement des remarques. Voilà.
C'est bon comme exemple de résistance.
Ah, d'accord. Très bien. On va s'en tenir à ces trois questions, interventions, et puis Catherine et
alors, d'abord, sur celle-ci, sont effectivement trois cas de résistance. Autisme, j'y crois pas. En tout cas... Autisme, j'y crois pas, mais peut-être certains troubles d'attention, certains ci et ça. Et ce qui est sûr, c'est que les sociologues qui sont penchés sur le cas disent effectivement, avant un certain âge, pas d'écran, même pas d'introduction de l'écran dans la chambre et des choses comme ça. Et effectivement, la Chine, par exemple, inonde le monde de TikTok et de contenu, ça, tout en mettant en revanche des limitations strictes sur le temps d'écran de ses ressortissants, ayant bien compris qu'ils ont besoin de préserver. Quelqu'un m'a dit un jour, ben c'est leur nouvelle politique de l'opium. Vous savez, la Chine étant hyper attentive à couper toute addiction après avoir vu, dans certains cas, ces empires s'écrouler sous l'effet de l'empoisonnement et de la drogue. Et maintenant, là, ils sont attentifs à couper toute addiction. Pour eux, toute religion est aussi une addiction. Les écrans sont des addictions, etc. aussi. Alors, formation et éducation, le problème, c'est pas se protéger l'IA. Le problème, c'est garder la motivation. La clé, aussi bien en formation qu'en éducation, en tout cas pour l'éducation, il y a plein d'ingrédients, mais l'ingrédient le plus difficile, c'est trouver la motivation pour faire les efforts, l'attitude curieuse, l'attitude active. La tâche de nos enseignants aujourd'hui est compliquée énormément par l'IA, en particulier parce que comme l'IA arrive avec cette promesse de mâcher le travail, c'est comme le gros gâteau qui est sous le nez des enfants, la motivation en est d'autant plus difficile. Et c'est sur les humains que ça retombe. Les profs doivent motiver les élèves à l'ère de l'IA, ça s'avère encore plus dur. L'éducation va être, j'en suis persuadé, encore plus demain qu'aujourd'hui, une affaire d'humains. Et sur le premier cas, alors, il y a un slogan dans la tech très connu, « Si c'est gratuit, c'est toi le produit ». Et ça s'applique à merveille ici. Comment Google fait l'essentiel de ses revenus? C'est pas en vendant sa technique. Quand ils ont fondé Brin et Page, ils se sont dit ben, on va vendre notre savoir-faire en moteur de recherche et telle entreprise sera très heureuse qu'on lui vide un bon moteur. Non. Le très, très gros de leurs revenus, c'est la publicité. Et cette publicité est nourrie par les expériences de tous les utilisateurs qui font ci ou ça. Et ça leur permet de vendre aux entreprises des contrats publicitaires qui sont considérables. Même quand ils ont des programmes de recherche de haut niveau, comme dans leur filiale DeepMind, qui fait de très belles recherches, ils sont, par exemple, dans leurs usages, leur budget, complètement secondaires par rapport à la prééminence de la publicité. Tu parlais nucléaire, du pétrole et tout ça. Mark Zuckerberg, il y a quelques jours ou semaines, je ne sais plus, disait « Ouais, je vais mettre sur la table 600 milliards de dollars pour l'IA. » Et après a dit « Mais ça ne me pose pas de problème de gaspiller quelques centaines de milliards de dollars pour développer la super-intelligence. » Alors ça, c'est un super bullshit, la super-intelligence. Si on raisonne en dollars constants, c'est à peu près 20 fois l'équivalent du programme Manhattan pour la construction de la bombe atomique. On n'a jamais vu dans toute l'histoire de l'innovation des sommes pareilles être mises sur la table. Évidemment, le programme Manhattan, c'est le gouvernement qui mettait ça sur la table. Là, on est en train de parler d'opérateurs privés. On voit comme la structure de l'économie, en tout cas en Amérique, a changé depuis cette époque. Et c'est l'un des faits majeurs de l'époque. Et bien sûr, l'IA en tant que telle, c'est quelque chose, les formes mathématiques, mais adossé à de tels monstres économiques avec une part dans l'économie réelle, c'est un fait de société.
Merci beaucoup Catherine, merci beaucoup Cédric. Donc vous pouvez retrouver leurs interventions dans Avec Jacques Ellul aux éditions Labor et Fides. Oui, oui. Merci et bonne soirée. À demain, on continue.